Vous écoutez France Culture.
France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Les dirigeants du G20 se retrouvent à partir d'aujourd'hui à Buenos Aires pour un sommet dont toute la question est de savoir s'il restera ou non fidèle au credo du multilatéralisme qui avait présidé à sa toute première édition. C'était en 2008, étant entendu qu'une grande partie de l'agenda a d'ores et déjà été dictée par l'activisme du président américain.
Dans votre journal également, cette nouvelle, le retour de la rougeole.
Oui, cette maladie est en pleine recrudescence. Plus de 30% de cas dans le monde l'an dernier en cause les lacunes de la couverture vaccinale.
Santé toujours. Le retrait des médicaments à base de valsartan a pris une nouvelle ampleur.
Après une première vague début juillet, des rappels supplémentaires ont été annoncés hier en raison de la présence d'une deuxième substance classée comme probablement cancérogène, une mesure de précaution qui devrait entraîner des ruptures de stock. À la veille d'une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes dans la capitale, le Premier ministre Édouard Philippe doit recevoir aujourd'hui plusieurs de leurs représentants. De son côté, Emmanuel Macron a d'ores et déjà écarté tout recul.
Et enfin, invité de la page Europe du vendredi.
Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avec un détour aujourd'hui par la science-fiction pour ouvrir le champ des possibles, on va recevoir l'écrivain Alain Damasio, qui sera notamment l'invité du festival Questions d'éthique au lieu unique à Nantes ce week-end sur le thème Demain surhumain, que nous reprendrons donc dans cette émission.
Merci, à tout à l'heure. Le monde a-t-il besoin d'un G20 alors que le sommet vient à peine de s'ouvrir à Buenos Aires, quand certains prédisent d'ores et déjà une réunion pour rien? D'autres préfèrent saluer l'occasion ainsi donnée au Gotha des chefs d'État de faire montre une fois par an de leur capacité à se réunir encore pour délibérer des affaires du monde en dépit de leurs intérêts divergents. Quoi qu'il en soit, et à tous ceux qui voudraient se voir récapituler tout ce que la planète compte aujourd'hui de tensions et autres déséquilibres, il faut bien admettre qu'en la matière, le G20 constitue pour le moins un formidable aide-mémoire. On cite rappelle-mêle le tout nouvel accord de Brexit avec l'UE, contenu dans les bagages de la première ministre britannique et que Theresa May ne manquera certainement pas de partager avec ses collègues. La réunion, d'ores et déjà inscrite à l'agenda du président Emmanuel Macron avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, sur lequel de lourds soupçons pèsent quant à sa possible responsabilité dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. La première volte-face déjà du président américain qui, après avoir confirmé sa rencontre avec son homologue russe, Vladimir Poutine a finalement décidé de l'annuler sur fond d'escalade en Ukraine. Sans oublier la guerre commerciale entre Washington et Pékin, laquelle provoque des inquiétudes sur l'économie mondiale, de sorte que demain, la rencontre, maintenue celle-ci entre Donald Trump et Xi Jinping, s'annonce d'ores et déjà comme un sommet dans le sommet. Et que dire encore du climat? Bref, pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, la question se pose en effet de la raison d'être d'un tel sommet qui, pour l'essentiel, devrait se résumer à une série de rencontres bilatérales soumises, qui plus est aux humeur d'un certain Donald Trump. C'est une correspondance à Buenos Aires signée de notre envoyé spécial Marie Vienno.
Des discussions complexes, un G20 conflictuel, une situation tendue. De Bercy à l'Elysée, on reconnaît que le sommet qui s'ouvre aujourd'hui à Buenos Aires risque d'échouer, autrement dit de ne déboucher sur aucun texte commun. Et l'on dit aussi que le point de blocage principal, ce sont les États-Unis. Le premier sujet de discorde, c'est le climat. Les États-Unis refusent que soit mentionné dans le communiqué final l'accord de Paris, alors que la France et l'Union européenne notamment le souhaitent ardemment. Sur le commerce, les positions des uns et des autres sont moins claires. Les États-Unis participent avec le Japon et l'Union européenne aux discussions ouvertes depuis cet automne pour refonder les règles du commerce mondial sous l'égide de l'OMC. L'Union européenne et la France sont d'accord avec les États-Unis quand ils disent que les pratiques chinoises sont peu loyales, qu'il y a des subventions à des industries, un marché peu ouvert, des transferts de technologies forcés. Le diagnostic est donc partagé pour nommer les entorses actuelles au libre-échange, mais la divergence est totale sur les moyens d'y remédier. L'Union européenne et la France plaident pour une solution multilatérale. Le président américain, lui, estime que seules les taxes et la menace de les augmenter à nouveau en janvier feront évoluer les Chinois. Cette semaine, Donald Trump a menacé la Chine de nouvelles taxes douanières. Il arrive à Buenos Aires en disant espérer trouver un bon accord avec la Chine. Accord bilatéral donc, comme si le G20 où il se rend n'était pas là justement pour promouvoir les négociations à plusieurs.
Et outre l'imprévisibilité donc du président américain, ce sommet aura d'ores et déjà été marqué par un autre aléa hier soir. L'avion de la chancelière allemande en route pour le G20 a été contraint de faire demi-tour afin d'effectuer un atterrissage d'urgence à Cologne en raison de défaillances techniques sérieuses provoquant notamment un arrêt sans précédent de tous les systèmes de communication. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour à toutes et tous.
Vous êtes en direct de Berlin. Alors suite à cet incident, Angela Merkel a dû finalement prendre place à bord d'un avion de ligne commerciale avec une délégation réduite de sorte qu'elle devrait atterrir en début de soirée à Buenos Aires, juste à temps pour participer au dîner du sommet du G20. Quoi qu'il en soit, cette panne, Ludovic, nourrit désormais en Allemagne des récits tous plus incroyables les uns que les autres.
Oui, cette panne a été constatée une heure après le décollage de Berlin. Hier soir, le vieil Airbus A340 survole alors la mer du Nord quand le pilote constate que plus rien ne lui permet de communiquer avec le sol. Une panne rarissime, extrêmement dangereuse. Il va donc faire demi-tour direction l'aéroport de Cologne-Bonn en utilisant par chance un téléphone satellite embarqué à bord, le seul lien qui lui reste avec la tour de contrôle. L'avion est en outre extrêmement lourd, il est plein de kérosène, en route pour un vol de 15 heures. Mais une autre panne de circuit va l'empêcher de se délester d'un peu de carburant avant l'atterrissage. Le pilote va freiner très brusquement, très lourdement, sans provoquer d'incendie. C'est le risque quand les freins sont ainsi sollicités. Il le fait aussi sur une piste plus courte. Celle destinée aux gros appareils était en travaux. L'armée de l'air allemande a dans un premier temps traité cette affaire de manière criminelle en cherchant si cette panne complète du système de communication notamment a été provoquée de façon intentionnelle, une hypothèse rapidement écarté ce matin, mais les causes restent encore à identifier. Rappelons Thomas que c'est ce même avion qui n'avait pas pu reconduire en Allemagne le vice-chancelier Olaf Scholz il y a de cela à peine un mois. L'avion était posé sur une piste indonésienne. Il était alors envahi par des rats qui mettaient en danger les circuits électriques.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Berlin. En marge toujours du G20 de Buenos Aires, Emmanuel Macron doit rencontrer aujourd'hui le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Ensemble, ils aborderont le dossier Renault-Nissan. Plus exactement, cette rencontre sera surtout l'occasion d'évaluer le rapport des forces au sein de l'Alliance automobile après l'éviction de Carlos Ghosn, quand les autorités japonaises nient avoir donné leur accord au maintien de la structure capitalistique actuelle de l'Alliance. La partie française affirme l'avoir obtenu. Pendant ce temps, le tribunal de Tokyo a lui approuvé ce matin la prolongation de la garde à vue de Carlos Ghosn pour une durée de 10 jours supplémentaires. Prolongation également ordonnée pour Greg Kelly, un ancien responsable de Nissan et bras droit du patron français. Les précisions à Tokyo du correspondant de RFI pour France Culture, Frédéric Charles.
Carlos Ghosn restera en garde à vue dans un centre de détention de Tokyo jusqu'au 10 décembre. À cette date, il pourrait être libéré sans charge ou inculpé et dans la foulée, être lâché sous caution ou incarcéré. Le patron français soupçonné d'avoir sous-déclaré ses revenus chez Nissan de l'équivalent de 7,7 millions d'euros par an sur 5 ans. Et peut-être 3 à 4 autres années, selon la presse japonaise. Les juges japonais pourraient donc étendre leurs investigations à d'autres années ou d'autres motifs et interpeller à nouveau Carlos Ghosn. Et le processus de garde à vue se répéterait. Le patron de l'automobile français nie toute malversation. Selon les médias japonais, le président français Emmanuel Macron et le premier ministre japonais Shinzo Abe pourraient évoquer le sujet Carlos Ghosn en marge du sommet du G20 en Argentine.
L'Ukraine a décidé aujourd'hui de limiter l'accès à son territoire pour les étrangers, tout particulièrement les citoyens de la Fédération de Russie, signe que les tensions avec Moscou sont toujours aussi vives depuis les incidents survenus dimanche dernier au large de la Crimée. De son côté, Theresa May a déclaré hier dans l'avion qui l'emmenait à Buenos Aires que la Russie devait remettre à l'Ukraine les marins et les bâtiments de guerre qu'elle a arraisonnés, ajoutant que Londres allait pousser pour que des sanctions appropriées soient prises contre Moscou. Le secrétaire général de l'ONU a tempéré hier l'espoir d'un début rapide de pourparlers de paix sur le Yémen. Les rebelles aussi posent leurs conditions pour y participer. Ils demandent notamment que les garanties pour une sortie et un retour des rebelles en sécurité dans leur pays soient maintenues. Pour l'heure, les Nations Unies n'ont fixé aucune date pour que ces consultations en vue de tenter de trouver donc un règlement politique au conflit qui ravage le Yémen depuis près de 4 ans. Aux États-Unis, les feux de forêt qui ont ravagé le nord de la Californie pendant plus de 2 semaines, faisant 88 morts, ont été totalement seront circonscrits. Quant aux recherches des victimes de l'incendie, elles ont été stoppées hier soir, bien que 196 personnes soient encore portées disparues. Et puis toujours aux États-Unis, Michael Cohen, l'ex-avocat de Donald Trump, entendu par le Congrès hier, a reconnu avoir menti au cours d'une précédente audition sur ses contacts avec la Russie. En début de semaine, déjà, c'est l'ancien directeur de campagne du candidat républicain, Paul Manafort, qui lui avait été accusé d'avoir menti au FBI alors qu'il avait accepté de coopérer en échange d'un accord de plaider coupable. De quoi alimenter un peu plus encore la colère du président américain, lequel s'emploie presque quotidiennement à discréditer l'enquête du procureur spécial Robert Mueller. Hier encore, Donald Trump l'a accusé de dépenser l'argent du contribuable à des fins partisanes. Les cas de rougeole ont bondi de plus de 30% dans le monde l'an dernier par rapport à 2016. C'est ce qu'a indiqué hier l'Organisation mondiale de la santé, qui alerte sur la résurgence de cette maladie non seulement extrêmement contagieuse mais aussi parfois mortelle. Pas moins de 110 000 morts dans le monde ont ainsi été recensés en 2017. Un quart de régression manifeste donc dans la lutte contre la maladie, qui vient notamment démontrer combien les vaccins, bien que recommandés par la majorité des médecins, souffrent aujourd'hui d'un sentiment de défiance de la part d'une partie de la population. Les détails à Genève avec Jérémy Lange.
L'OMS avance plusieurs raisons pour expliquer la recrudescence de la maladie. En Europe et dans les pays occidentaux, c'est surtout la méfiance d'une partie croissante de la population à l'égard des vaccins. Les experts pointent du doigt la diffusion de fausses informations, comme le lien présumé entre vaccination et autisme. Parfois, les raisons sont même religieuses, comme en Israël, où une épidémie de rougeole touche particulièrement la communauté juive orthodoxe. Le vaccin contre la rougeole est non seulement sûr, mais aussi efficace, dit l'OMS. En Afrique, le problème est plus large, avec une couverture vaccinale insuffisante en général. L'instabilité politique joue également un rôle, comme au Venezuela, où le système de santé s'est effondré. Europe, Amérique, Moyen-Orient, Afrique, le nombre de nouveaux malades augmente partout dans le monde. Mais ce qui inquiète surtout l'OMS, c'est que certains des pays les plus touchés n'avaient plus connu de cas de transmission de la rougeole depuis plusieurs années. Résultat, 2017 marque un nouveau pic de contamination. La rougeole aurait fait 110 000 morts. Les nourrissons et les jeunes enfants affaiblissent sont très exposés. L'OMS appelle à un renforcement des systèmes de vaccination, notamment pour les populations les plus pauvres, victimes des conflits et des déplacements. L'agence de l'ONU prévient, si la tendance se poursuit, on risque de réduire à néant des décennies de progrès contre cette maladie dévastatrice, mais parfaitement évitable.
Alors, la défiance de certains envers les vaccins peut-elle en partie s'expliquer par les scandales qui viennent régulièrement affecter les produits de l'industrie pharmaceutique? Quoi qu'il en soit, hier, de nouveaux rappels de médicaments à base de valsartan ont été annoncés en France à cause de la présence d'une substance classée comme probablement cancérogène. Au total, et après une première vague début juillet, le cumul des rappels touche aujourd'hui 3/4 de ces médicaments, utilisés notamment en cas d'insuffisance cardiaque ou d'hypertension artérielle, par près d'1,5 million de patients. Les précisions de Solène Lehen.
Avec le retrait de l'eau déjà effectué en juillet, ce sont désormais plus des 3/4 des médicaments à base de valsartan qui ont disparu des pharmacies françaises. Une quinzaine de laboratoires pharmaceutiques en commercialisaient. Il en reste seulement 6 capables de fournir le marché français, soit plus d'1 million de patients. L'agence du médicament a demandé à ces laboratoires restants d'augmenter leur production. Les pharmaciens, eux, sont invités à délivrer les médicaments à base de valsartan en priorité aux malades qui arriveront avec sur leur ordonnance la mention « traitement indispensable » pour ce patient. Les patients, justement, elle leur recommande de ne surtout pas arrêter brutalement leur traitement, ce qui peut être dangereux et pourrait provoquer pour certains des montées de tension, des accidents neurologiques ou des décompensations cardiaques. Non, il faut qu'ils consultent leur médecin pour éventuellement changer de médicament, car il existe des solutions alternatives. Les médicaments de la famille des sartans, c'est-à-dire la classe dont est issu le valsartan, mais aussi d'autres molécules. Un numéro vert a aussi été mis en place pour répondre aux questions. Le 0800 97 14 03.
Nouvelle opération porte ouverte à Matignon. Édouard Philippe doit accueillir en début d'après-midi plusieurs gilets jaunes censés représenter le mouvement. Point d'orgue de 2 jours de rencontres commencé hier matin pour dessiner la grande concertation locale de 3 mois voulue par le chef de l'État. Alors hier, Emmanuel Macron, justement, depuis Buenos Aires, a répété entendre la colère légitime d'une partie du peuple français, tout en précisant que les décisions supplémentaires qui seront prises dans les semaines et les mois à venir ne seront jamais des reculs. De sorte qu'à la veille d'un troisième samedi de mobilisation dans la capitale, on a du mal à entrevoir la sortie susceptible de faire quitter aux gilets jaunes les ronds-points et autres avenues sur lesquelles s'expriment depuis deux semaines maintenant leur frustration. Alexandra Dubucheron, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Désormais, toute la pression semble donc dirigée sur l'un des derniers hommes de confiance du président devenu par la force des choses l'homme fort de la Macronie. Édouard Philippe.
Oui, l'homme fort, même si l'effet gilet jaune est passé par là, ces derniers jours, la cote de popularité du Premier ministre a chuté, elle qui dépassait celle du président il y a encore un mois. Après Emmanuel Macron et François de Rugy mardi, c'est donc effectivement au tour d'Édouard Philippe de se prêter à l'exercice d'équilibriste, dialoguer à défaut de céder sur le fond, se montrer compréhensif, à l'écoute, tout en gardant le cap. Le Premier ministre a d'ailleurs commencé hier en acceptant de rencontrer son premier gilet jaune, un Chalonnais en grève de la faim, venu à pied à Paris. Ce dernier a semblé séduit par l'échange, mais il faut des mesures concrètes, dit-il, et il appelle à poursuivre le mouvement. À 14h, Édouard Philippe va donc recevoir des porte-paroles des Gilets jaunes. Trois auraient déjà dit non. Il faut dire que dans l'invitation, il n'était pas question de chercher une sortie de crise, mais de définir les modalités de cette grande concertation des territoires sur la transition écologique. Mais concertation, pourquoi faire ? Hier soir, vous l'avez dit Thomas, Emmanuel Macron a de nouveau écarté tout recul. Voilà qui ne facilitera pas la tâche de son Premier ministre cet après-midi.
Alors pour l'instant, on voit mal Alexandra, on a du mal à entrevoir une possible sortie de crise, d'autant que ce mouvement de colère, donc d'initiative populaire atypique, voit aujourd'hui s'agréger de plus en plus de revendications de toute nature.
Oui, aujourd'hui, si l'on en croit les derniers sondages, 8 Français sur 10 approuveraient le mouvement des Gilets jaunes. Et demain, c'est donc le troisième acte, troisième grande journée de mobilisation nationale à Paris notamment. Plusieurs défilés convergeront vers les Champs-Élysées, car là, on ne parle plus seulement d'une déferlante jaune. Au mouvement déjà protéiforme avec ses revendications variées viendront se greffer les syndicats et les étudiants, mais aussi les mouvements antiracistes, des Nuits debout à l'appel de l'insoumis François Ruffin ou encore le comité Adama Traoré qui appelle les quartiers à manifester. Côté politique, Marine Le Pen n'y sera pas, mais elle soutient et Jean-Luc Mélenchon, lui, compte bien se montrer.
Merci Alexandra Dubucheron. Invitée ce vendredi de notre page Europe, Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes. Bonjour madame.
Bonjour.
À mes côtés en studio pour vous interroger, Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Une première question, madame Loiseau. Ce matin, face à la fermeté du gouvernement envers les Gilets jaunes, un homme politique a déclaré « À un moment, on ne peut pas gouverner contre le peuple ». Alors peut-être savez-vous déjà à qui revient cette déclaration. Ça n'est pas un responsable de l'opposition, mais François Bayrou. Et de fait, on a du mal aujourd'hui à comprendre comment l'exécutif peut-il tout à la fois prétendre vouloir dialoguer avec les Gilets jaunes, tout en posant comme préalable à cette discussion qu'il n'y aura pas de recul, et même jamais, a encore insisté hier Emmanuel Macron. Est-ce que vous pensez sincèrement, madame Loiseau, que cette stratégie vous permettra de sortir de cette impasse ?
Aujourd'hui, il y a deux urgences. Il y a une urgence climatique qui n'attend pas et des décisions à prendre pour une transition écologique, énergétique qui est indispensable pour nous. On a longtemps dit pour nos enfants, mais pour nous-mêmes, on sait qu'on a deux ans pour agir, qu'après il sera trop tard. Notre responsabilité gouvernementale, c'est de prendre des mesures qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'aller vers plus de renouvelables, de travailler vers des nouveaux transports collectifs plus propres. Ça, c'est une urgence. D'ailleurs, elle est partagée par l'ensemble de nos compatriotes. Quand on fait le tour de France, comme je l'ai fait pendant 6 mois, on entend parler préoccupations environnementales partout. Et puis, il y a un mécontentement, une lassitude, une impatience qui aujourd'hui s'incarne au travers des Gilets jaunes, mais qui, d'une certaine manière, les dépasse. Ce serait facile de vous dire qu'il y a moins de monde dans la rue, mais il y a beaucoup de gens en France qui se disent oui, j'ai un problème de pouvoir d'achat, oui, j'ai du ras-le-bol fiscal, oui, j'ai des préoccupations, elles sont très nombreuses, elles sont parfois disparates, elles sont parfois contradictoires. Moi, si vous me demandez si je veux moins d'impôts et plus de dépenses publiques, je serais tentée de vous répondre oui avant de comprendre que c'est compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est commencer à débattre. Mais à débattre avec qui ? À débattre au plus près du terrain, parce que les solutions, les situations, elles peuvent être différentes d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre. C'est ce que nous avons proposé. Et d'ailleurs, je sais que certains porte-parole des Gilets jaunes n'ont pas souhaité aller à Matignon parce qu'ils ont dit « c'est trop tôt, il faut nous-mêmes qu'on débatte entre nous ». C'est le début d'un processus. Nous y sommes prêts. La main est naturellement tendue. On ne luttera pas contre le changement climatique sans les Français.
Une question de Sophie Delpont.
Aujourd'hui aussi, des rassemblements sont prévus de gilets jaunes devant des lieux de pouvoir de l'Union européenne. Au moment où l'Union européenne aussi essaye, en tout cas une initiative portée par la France, essaye de faire passer une taxe sur les GAFA, les géants du net, alors qu'on parle aujourd'hui de ras-le-bol fiscal, qu'on parle de deux poids, deux mesures, que ces géants du net ne sont pas taxés. Pierre Moscovici, cette semaine, a dit qu'il était plutôt pessimiste sur le fait de faire passer cette taxe. Alors, qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui ?
C'est une nécessité, c'est une urgence. C'est une nécessité parce que on ne peut pas accepter que certains ne consentent pas à l'impôt en Europe alors qu'ils y gagnent de l'argent. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les géants de l'Internet. C'est une urgence parce que quand certains payent leurs impôts et d'autres non, il y a une concurrence déloyale et ça empêche des champions européens de l'Internet de se développer et ça porte préjudice à des secteurs traditionnels. Je pense par exemple au tourisme qui est exposé à des plateformes qui ne payent pas les mêmes impôts que le secteur traditionnel. Donc il y a une nécessité, il y a une urgence et pourtant il y a une frilosité. Pas de tout le monde. La Commission a fait une proposition qui est une proposition raisonnable. Beaucoup d'États membres sont derrière cette proposition. Certains hésitent encore.
L'Allemagne,
et vous savez
notamment.
Que le sujet fiscal est un sujet sur lequel les décisions ne peuvent être prises qu'à l'unanimité dans l'Union européenne, ce qui, de ce point de vue-là, est regrettable. Ça n'est pas un hasard si nous poussons depuis un an et demi l'idée que sur certains projets, il faut pouvoir les faire à quelques-uns et que les autres nous rejoignent plus tard. Alors certains pays bloquent, soit parce qu'ils accueillent eux-mêmes des sièges de géants de l'Internet en Europe.
Comme l'Irlande, par exemple.
Et ça n'est plus le cas du Luxembourg, qui s'est rallié à notre proposition. L'Allemagne est hésitante. C'est un peu difficile de savoir exactement ce qu'elle dira au Conseil européen de décembre, puisque à la fois il y a des membres de la coalition qui sont favorables à la taxe et d'autres qui sont plus réservés. Nous nous rappelons la nécessité, l'urgence, la justice fiscale. Et à un moment où on voit bien que certains se disent que c'est les petits qui payent et pas les gros, cette urgence, elle est encore plus prégnante.
On est aussi dans un contexte de vague brune en Europe, avec aussi les derniers sondages qui montrent le Rassemblement national de Marine Le Pen en tête des intentions de vote. Avec justement ce contexte-là, si la taxe sur les géants du net ne passe pas, qu'on a cette contestation des gilets jaunes, comment vous comptez faire passer l'idée que la majorité pourrait incarner les progressistes face aux populistes en Europe ?
D'abord, vous parlez des sondages d'aujourd'hui, mais parlons de la réalité d'aujourd'hui. Le premier parti politique français représenté au Parlement européen depuis 2014, c'est le Front National. Il est arrivé en premier il y a déjà 4 ans de cela. Quel bilan ? Parce que les sortants, en quelque sorte, c'est eux. Premier bilan, des soupçons de détournement de fonds publics et des soupçons d'emplois fictifs. Deuxième bilan, qu'est-ce qu'ils ont apporté ? Qu'est-ce qu'ils ont proposé ? Qu'est-ce qui a marché ? Ils ont voté contre la lutte contre le terrorisme au Parlement européen. Ils ont voté contre la réforme du régime des travailleurs détachés. Ils sont opposés à ce qu'on protège la création européenne par la réforme des droits d'auteur dans le secteur du numérique. Nous avons beaucoup de propositions pour faire en sorte que l'Europe soit en maîtrise de son destin, que ce soit sur le changement climatique, que ce soit sur le numérique, on en a parlé, que ce soit sur la défense et la sécurité, que ce soit sur le défi migratoire. Ce sont des défis qui dépassent les frontières, qui ne les connaissent pas, le repli national n'est pas une option.
Que pensez-vous justement du décret-loi immigration et sécurité qui est passé en Italie cette semaine ? C'est notamment, je rappelle pour nos auditeurs aussi, ce décret supprime les permis de séjour pour protection humanitaire accordés jusqu'ici aux demandeurs d'asile, 1 sur 4 là-bas. Il permet aussi d'expulser en urgence les personnes coupables de délits. Est-ce que c'est une mesure dangereuse selon vous ?
C'est sans surprise compte tenu du fait que c'était porté par la Ligue de Matteo Salvini. Il fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. C'est contraire à nos valeurs et nous les combattons. Quand nous parlons de combat entre les progressistes et les nationalistes, ça n'est pas un combat pour des élections européennes. C'est un combat de tous les jours que nous menons pied à pied sur tous les grands sujets au sein de l'Union européenne.
Une dernière question de Sophie Delpont.
À propos du Brexit, on avance sur l'aboutissement d'un accord. Il reste maintenant à le faire valider au Parlement britannique. Est-ce qu'il y a une chance de passer alors qu'aujourd'hui, Theresa May n'a pas de majorité ?
Alors, ce qui s'est passé le 25 novembre est important puisque les 27 États membres de l'Union européenne ont approuvé l'accord de retrait qui avait été négocié pendant plus d'un an par Michel Barnier et les Britanniques. Le Brexit, c'est une mauvaise nouvelle, une séparation, ça sera de toute façon moins bien qu'avant, mais l'accord de retrait est le moins mauvais accord possible. Et c'est le seul, parce qu'au bout d'un an, toutes les options techniques ont été explorées. Aujourd'hui, cet accord est soumis à la ratification du Parlement européen, qui a déjà donné le signal qu'il le ratifierait, et du Parlement britannique, où c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Aujourd'hui, si nous parlons et si nous faisons de l'arithmétique électorale, ça ne passe pas. Mais je suis pas là pour spéculer sur la politique intérieure britannique. Et je suis là pour rappeler le talent, l'engagement, l'énergie, j'allais dire l'obstination au bon sens du terme, de Theresa May, que parfois certains Britanniques ont sous-estimé. Il y a eu du mépris de genre et du mépris de classe en ce qui la concerne. Ce que je vois, c'est qu'elle est toujours là, qu'elle est combattante, qu'elle croit à cet accord et qu'elle a raison.
Merci Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargé des Affaires européennes, d'avoir été en direct et en studio avec nous aujourd'hui. Merci également à Sophie Delpont.
Merci.
Terminé avec un mot de météo. Après avoir traversé une grande partie du pays, la perturbation pluvieuse se décalera sur l'ouest. À l'ouest, là, le ciel redeviendra plus variable avec toujours des nuages, mais aussi l'apparition de quelques éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront cet après-midi entre 7 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.